Très bien, bien bonjour à tous. Donc après avoir beaucoup parlé, j'imagine, des organisateurs de l'activité, je vais essayer de troubler le bel ordonnancement. Voilà.
On a déjà beaucoup parlé des organisateurs.
Des choses stables et structurées, pour parler plutôt du point de vue des ce que j'ai appelé les désorganisateurs de l'activité, en reprenant la proposition d'Anne-Marie. Et je vais d'abord commencer en disant que le travail est d'abord perçu à travers ces désorganisateurs. À la fois par ceux qui travaillent et par ceux qui jugent leur travail, qui évaluent leur travail. Quand on interroge des enseignants, de la même façon que si on interroge des inspecteurs, ce qui apparaît, ce sont les manques, les dysfonctionnements, les ratés du travail. Tout cet aspect du travail qui semble proprement désorganisé. Et quand je dis pour ceux qui évaluent le travail des enseignants, c'est pas seulement au niveau des inspections pédagogiques, mais aussi au plan national et international. Il y a quelque chose d'assez amusant, par exemple, quand on voit les résultats au baccalauréat, ce qui est pointé, c'est non pas les 60-70% de résultats positifs, ce qui est formidable en termes de résultats d'un système éducatif. Ce qui est pointé tout de suite, c'est « Ah non, c'est sans doute que le niveau baisse et qu'on fait n'importe quoi ». Donc, on met toujours l'accent sur plutôt ce qui ne va pas. Alors, pour avancer encore un petit peu, on peut dire que, par contre, les réussites du travail sont perçues par les acteurs comme ce qui va de soi. Et comme ça va de soi, eh ben, d'abord, il n'y a pas besoin d'en parler, et puis ça ne se voit pas. Ce qui rend visible le travail, c'est ce qu'ont bien montré les ergonomes, c'est justement la panne, souvent. Ce qui va de soi est souvent enfoui dans ce qu'on peut appeler des routines efficaces, qui ne sont pas toujours au niveau de conscience et de verbalisation, ou, même s'ils le sont, qui ne sont pas valorisés par ceux qui travaillent. Ça leur semble banal et évident, comme allant de soi, comme faisant partie, oui, de l'évidence. Donc c'est la désorganisation du travail qui est perçue et décrite en premier. Un autre exemple aussi que je peux donner, c'est la difficulté qu'ont les enseignants quand on les interroge sur leur travail, et à certains moments, décrivant telle ou telle situation, ils disent « là, ça a marché ». Et quand on leur demande « pourquoi dites-vous que ça a marché ?», c'est très difficile pour eux de dire pourquoi ça a marché. Ils disent beaucoup plus facilement pourquoi ça n'a pas marché. Donc ces désorganisateurs entraînent des épreuves. Et ça, ce sera la deuxième idée que je vais développer dans cette introduction. Le fait que quand il y a de la désorganisation du travail, il y a pour ceux qui travaillent épreuves. Épreuve avec des dimensions tout à fait concrètes, pratiques, mais aussi avec une dimension subjective. Et ces épreuves sont intéressantes aussi pour l'observateur, qui est le chercheur, parce que c'est l'épreuve qui trouble l'ordre établi, en quelque sorte, qui trouble les allants de soi, qui fait que ce qui allait de soi jusque-là ne va plus de soi. Quand on est confronté à une épreuve, il faut se reposer la question de pourquoi je fais ça et quel choix je fais. Et non seulement se la reposer, mais en discuter avec d'autres. Pourquoi tu fais ça et pourquoi je fais ça? Donc l'épreuve entraîne les enseignants, comme d'autres salariés d'ailleurs, à entrer dans des débats, dans des controverses, dans des confrontations éventuellement, et les entraîne également à un travail d'argumentation et de justification. Alors, ces épreuves, elles ont un coût, parce que ça coûte en énergie que de devoir restituer, reconstruire un nouvel ordre des choses. Ça coûte en énergie d'argumenter, d'être dans la confrontation. Et ça coûte subjectivement, parce qu'on n'est jamais sûr d'être dans le juste. puisque quand on dit justifier son action, c'est aussi, et là je m'en réfère à Boltanski pour le coup, c'est aussi la justifier par rapport à des principes de justice. Et dans les débats sur les petites choses, entre guillemets, du travail, il y a beaucoup de principes de justice qui sont implicites. Si je fais comme ça, c'est parce que c'est plus juste de le faire comme ça. Cela correspond à une idée que je me fais de l'école, de l'enseignement, du métier, qui me paraît plus juste. Donc, la plupart du temps, les acteurs se débrouillent pour trouver des compromis entre eux et pour sortir de la confrontation, bien sûr. Et on peut le voir sur des exemples concrets. Alors, j'ai particulièrement étudié la mise en place, ou plutôt ce qui était devenu des PPCP, les projets pluridisciplinaires à caractère professionnel, 4 et 5 ans après, avec une équipe notamment de l'INRP. Et ce que nous avons vu, c'est à quel point, justement, il y avait des débats et des controverses pendant tout ce temps. Là, on était 4-5 ans après, et ce n'était pas clos. Il y avait encore des débats et des controverses. Et ce long temps de traduction de la prescription est l'occasion pour les enseignants et leurs partenaires internes d'ailleurs pour construire des points de repère qui leur permettent ensuite de faire face aux épreuves. Donc il y a en permanence un jeu entre construction de repères stables et épreuve du réel, tout simplement, qui bouscule, qui met à mal les accords passés. Alors l'intérêt d'approcher le travail à partir des épreuves, ça permet de ne pas faire l'impasse justement sur les désorganisateurs du travail dont j'ai dit qu'ils étaient la première perception du travail. Identifier ces désorganisateurs, les comprendre, permet de se poser la question de comment agissent-ils sur le travail. Et on pourra faire le lien en conclusion avec entre désorganisateurs et organisateurs. Peut-on penser les organisateurs sans penser les désorganisateurs du travail ? S'intéresser aux désorganisateurs de l'activité fait apparaître ou fait émerger des dimensions différentes que le fait de s'intéresser aux seuls organisateurs. Ça fait apparaître des registres différents de l'activité, dont tous ne se situent pas dans la classe. Cela fait apparaître la profondeur de l'activité dans le temps. Cela fait apparaître aussi le maillage social dans lequel l'activité s'inscrit. Et cela rappelle aussi que le mot activité, on peut le prendre dans le double sens, activité professionnelle au sens général, et puis activité au sens plus de l'ergonomie. Et ça permet, en prenant les deux dimensions, de ne pas oublier que le travail des enseignants, comme les autres, se fait aussi en fonction de contraintes normatives, macrosociales, et de contraintes liées aux organisations du travail locales, au plan de l'établissement. Donc parler des désorganisateurs du travail, c'est aussi faire un mouvement un peu vers le un pas de côté, du côté par rapport à la situation proprement dite. Et c'est penser l'activité pas seulement dans le ici et maintenant, mais dans un ensemble plus vaste, et ne pas sous-estimer la dimension normative qui est à la fois une contrainte et une ressource pour le travail. Alors dans le deuxième point, cette introduction un peu longue, je voudrais essayer de dire que les désorganisateurs de l'activité me semblent de plusieurs natures et que j'en ai repéré surtout quatre. Ça ne veut pas dire que ce soit les seuls, mais j'en ai identifié quatre. D'une façon générale, je dirais que les désorganisateurs de l'activité proviennent de cadres normatifs décoordonnés. De cadres normatifs décoordonnés, c'est-à-dire qu'il y a des cadres normatifs qui se situent dans plusieurs registres, à plusieurs niveaux, et qu'il n'y a pas de coordination entre eux, il n'y a pas d'articulation entre eux, ce qui provoque des disjonctions et des problèmes. Alors, premier type, entre guillemets, pas au sens weberien, des désorganisateurs, ça serait ceux qui relèvent de la dérégulation. Il y a, du fait des évolutions du système éducatif, bon, je reviens pas sur l'histoire depuis la décentralisation et la mise en place de politiques d'orientation plutôt libérale, il y a une articulation qui est devenue problématique entre des visées contradictoires du système éducatif. Et non seulement il y a une articulation problématique, parce que les visées sont passablement contradictoires, faut-il faire de la performance et du résultat mesuré? Faut-il faire du vivre ensemble, produire du vivre ensemble et de l'insertion sociale? Tout cela ne va pas forcément ensemble, ou en tous les cas pas au même rythme, pas de la même façon. Et ces différences, ces contradictions ne sont pas arbitrées au plan politique. Comme il n'y a pas d'arbitrage ni de consensus construit au plan politique, le problème est renvoyé au local. Et le même problème qui n'est pas arbitré au plan national, on peut dire, il est censé être réglé par des compromis au plan local. Alors par exemple, vous savez qu'il y a la mise en place du socle commun des connaissances et des compétences dans l'école primaire et au collège. Et on voit bien qu'il y a là une double logique qui se rencontre. Il y a d'une part la logique des disciplines, qui est maintenue, qui est représentée par l'inspection générale et les inspections régionales. Et puis, d'autre part, il y a la logique des compétences. Or, les deux ne coïncident pas. D'autant plus quand, dans une logique, on en reste à une évaluation sommative, à base de notation, de moyenne, alors que la logique des compétences et le livret des compétences est exactement à l'inverse. Donc cela produit des tensions par rapport aux missions mêmes qui sont données aux enseignants, par rapport à la question du mandat. Les sociologues anglo-saxons ont à juste titre insisté sur le fait qu'il y avait dans certains métiers un mandat qui était attribué par la société aux enseignants. Le mandat qui est attribué actuellement par la société aux enseignants, il est plutôt confus. Deuxième aspect dans la dérégulation, c'est l'accroissement de la concurrence entre les établissements. Bon, je ne reviens pas sur les études qui l'ont amplement montré. C'est un des effets, alors je ne sais pas s'il faut dire pervers ou attendu, avec l'idée qu'il y aura un gain en qualité de la formation par le jeu de la concurrence. Mais cette concurrence entre établissements et le fait que c'est désormais aux établissements de construire un accord implique la construction de normes locales. Les normes nationales ne suffisent plus à encadrer l'action, ne suffisent plus à dire comment il faut faire. Mais qui dit norme locale dit aussi variabilité plus grande, puisqu'on va passer d'un établissement à l'autre avec des logiques qui ne sont pas les mêmes. Ces normes locales sont construites par les acteurs, elles sont des repères pour pouvoir travailler, mais leur instabilité pose problème justement pour pouvoir travailler. Et l'enquête dont je faisais, à laquelle je faisais allusion tout à l'heure sur les BPCP, avait ça de tout à fait frappant, c'était de voir à quel point d'une année sur l'autre, la logique et le contenu des BPCP, leur organisation, variaient d'une année sur l'autre. Donc les points de repère ne semblent jamais complètement stabilisés, même s'il y a certaines continuités et certains invariants qu'on peut peut-être aussi identifier. Donc ça, c'est le premier des organisateurs, je dirais, les effets d'une certaine dérégulation. Le deuxième des organisateurs, qui n'est pas sans lien avec le premier, c'est ce que j'ai intitulé « du désordre et du flou dans la prescription ». Alors pourquoi est-ce que je dis « du désordre et du flou dans la prescription » ? Alors, d'une part, parce qu'il y a des paradoxes dans la prescription. Alors, par exemple, on dit aux enseignants à la fois faites des projets, par exemple dans le cadre des PPCP, mais aussi des TPE, des IDD, des P3, enfin tous les dispositifs qui peuvent exister. Et en même temps, on leur dit faites du chiffre. Vous devez avoir des résultats aux examens. Or, c'est de fait contradictoire dans la réalité du travail tel qu'il est actuellement. pas forcément dans l'absolu, mais dans la réalité du travail tel qu'il est actuellement. Deuxièmement, il y a du désordre dans la prescription aussi parce qu'il y a une accumulation de prescriptions inouïe depuis 20 ans. Autant le système éducatif s'est caractérisé par une grande stabilité des prescriptions pendant fort longtemps, autant depuis les années, surtout 80, il y a un espèce de tournis prescriptif. Et ce tournis prescriptif se fait sentir notamment au grand nombre de circulaires. Dans la mesure où ce qui a le plus de légitimité, ce sont les lois, il y en a très peu en éducation. Récemment, un intervenant sur le socle commun, Dominique Rollin, rappelait qu'il y avait seulement eu 3 grandes lois en matière éducative depuis la loi Juffery. Les lois Jospin, en enlevant Vichy qui n'a pas duré, la loi Jospin et la loi sur le socle commun. Donc il y a une force de la loi qui est extrêmement forte, qui est grande, mais qui est très rare aussi. Ensuite, il y a les décrets qui sont la mise en application des lois, qui ne sont pas toujours pris d'ailleurs, mais qui ne sont pas très nombreux non plus. Et puis il y a pléthore de circulaires. Or, au plan strictement de respect des textes, la circulaire n'a pas la même valeur prescriptive qu'un décret ou une loi. Ce qui fait qu'il y a une accumulation de circulaires qui donnent des injonctions dans un sens, dans un autre, qui suivent un agenda politique évident, beaucoup plus que le rythme d'évolution lente par essai-erreur, par ajustement progressif que nous avons observé pour le travail enseignant. Troisième registre pour ces désorganisateurs, c'est, hélas, l'expression est un peu forte, mais c'est bien ce que nous rencontrons, la désorganisation organisée de l'organisation. Si vous avez suivi, je répète, la désorganisation organisée de l'organisation. C'est très sensible à travers la façon dont les enseignants décrivent leur travail. Ils décrivent leur travail comme un empilement de tâches, peu hiérarchisées et surtout pas coordonnées. Ils décrivent leur travail comme l'extension infinie des tâches à faire et qui justement n'est jamais close. Et c'est cette absence de clôture qui engendre surengagement, qui engendre épuisement dans le travail. Or, cet empilement de tâches non coordonnées, elle est liée aux multiples prescriptions qui s'accumulent, et elle est liée aussi à des organisations locales qui ne permettent pas cette coordination et cette hiérarchisation. Elle est liée aussi à l'histoire du métier, qui a défini le métier depuis les décrets 50, d'une certaine façon, alors que maintenant, ce qui est demandé aux enseignants est en décalage assez net par rapport à cette description qui était très centrée uniquement sur la transmission de connaissances. Deuxième aspect de cette désorganisation organisée, c'est l'injonction à travailler collectivement. Alors c'est une vieille histoire quand même, cette injonction à travailler collectivement. Elle vient à la fois de l'histoire de la pédagogie, des mouvements pédagogiques, des pédagogies nouvelles, et ça a été vu comme la possibilité d'avoir un progrès dans la prise en compte globale de l'élève, dans le fait de travailler pour le bien de l'élève en quelque sorte, d'une façon cohérente pour donner du sens aux apprentissages. Et en même temps, actuellement, c'est une injonction sur le mode de l'efficacité. Il faut travailler en équipe pour être efficace. Donc on a des logiques un petit peu différentes, hein, pour produire du chiffre et pas seulement pour être attentif aux enfants en les prenant en charge de façon collective. Mais en même temps, ces injonctions au travail collectif sont entravées par la faiblesse des temps et des lieux d'élaboration collective. Et là, je ne parle pas de travail en équipe instituée. Je parle seulement de temps et de lieux au cours desquels les enseignants puissent parler travail. Non pas parler des élèves, parce que ça, on trouve toujours le temps de le faire, mais parler du comment on s'y prend. Et c'est compliqué de parler de comment on s'y prend, parce que ça veut dire parler de son travail, parler de ce qu'on fait, montrer ce qu'on rate ou ce qu'on réussit. Ça demande le temps de la création, de la confiance et de la controverse collégiale, j'ai envie de dire. Troisième dimension de la désorganisation organisée de l'organisation, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais je voudrais y revenir un petit peu, c'est le fait qu'il y a une injonction à travailler selon une logique de projet qui repose sur une grande autonomie des individus. Et cette autonomie, elle est à la fois prescrite et empêchée. Et là, les enquêtes que nous avons faites dans tous les établissements sont très très révélatrices sur cette double injonction aussi. À la fois, il faut faire et en même temps, les conditions concrètes ne sont pas là pour que ce soit fait. Et il ne s'agit pas, je le précise, de résistance au changement des enseignants. Le prendre sous cet angle-là, à mon avis, c'est s'empêcher de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'introduire du changement dans des organisations ? Est-ce qu'introduire du changement dans des organisations, cela ne peut se faire que par l'extérieur et sans prendre en compte le réel du travail ? C'est ce qui se passe actuellement. Et pour le coup, ça peut provoquer des attitudes défensives. Ou est-ce que le changement se met en place ? Au quotidien, ce qu'on observe aussi, quand on prend un peu de recul historique, on se rend compte que s'il y a une certaine continuité dans les pratiques, il y a eu aussi pas mal de changements dans les pratiques des enseignants. Énormément. Quatrième point, dans la désorganisation organisée de l'organisation, c'est le fait que actuellement la logique dominante est celle de l'efficacité, que sont censés mesurer des standards de plus en plus internationaux, qui correspondent à des critères précis et à une certaine conception de l'efficacité. C'est faire l'impasse sur d'autres conceptions de l'efficacité. Dans la logique des standards internationaux, on est dans la logique processus-produit. Or, il peut y avoir bien d'autres conceptions de l'efficacité que simplement cette logique processus-produit. Et ça rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure sur les missions qui sont données aux enseignants. De la même façon, d'ailleurs, on voit bien qu'il y a d'autres attentes institutionnelles par rapport aux enseignants que de produire du chiffre. L'institution elle-même a d'autres attentes, sans parler des parents et des élèves qui ne pensent pas seulement en termes de résultats aux examens, même s'ils y pensent aussi. Et on voit bien, toujours pour revenir à l'exemple des PPCP, comment, selon les établissements, cette idée d'efficacité est interprétée différemment. Il y a des établissements où ce qui est vu comme efficace, c'est de faire un PPCP qui va permettre d'alimenter l'image positive, innovante de l'établissement. Dans un autre établissement, ce qui va faire du PPCP un PPCP efficace, ça va être celui qui va contribuer, par 36 ruses possibles, à produire de bons résultats aux examens et à se connecter de façon très, très forte avec les enseignements dans les classes, entre guillemets, normales. Après la désorganisation organisée de l'organisation, le dernier point que je voudrais citer sur ces désorganisateurs et leur nature différente, c'est le fait que ces désorganisateurs introduisent de l'insécurité. Et là, c'est plus sous la facette subjective. Alors pourquoi est-ce que ça introduit de l'insécurité ? Les enseignants passent énormément d'énergie, d'après ce que montrent beaucoup d'enquêtes, à construire des repères, des points de repère, à construire des normes locales, à construire un cadre à leur activité, à faire tenir la situation, comme nous disons. Et c'est toujours très précaire. Comme ils le disent toujours, on ne sait jamais ce qui va se passer d'une heure sur l'autre. Alors c'est à la fois vrai et pas vrai, mais malgré tout, ça existe aussi. Donc, ces ajustements extrêmement nombreux qu'il y a dans l'activité, dans les interactions entre collègues, avec la direction, avec les parents, avec les élèves, ces ajustements et ces micro-négociations, ces multiples arbitrages dans le cours de l'action peuvent construire une action réussie dans la mesure où elle est assez plastique. Les désorganisateurs de l'activité rencontrent cette rigidité ou plasticité. S'il y a trop de rigidité, s'il y a trop d'organisateurs à la limite de l'activité, c'est là où les enseignants sont le plus mal. Et par contre, si les désorganisateurs sont trop forts, la plasticité ne peut pas suivre en quelque sorte et elle est aussi mise à mal. Donc les solutions inventées par les enseignants face à ces désorganisateurs ne sortent pas de rien du tout, mais en règle générale, et ça aussi c'est important de le noter, ce ne sont pas des inventions à partir de rien. On parle, et je le fais aussi, de l'inventivité de beaucoup de solutions trouvées par les enseignants, mais quand on essaye de comprendre pourquoi les enseignants ont fait tel choix dans telle situation inattendue, quand il y a eu un désorganisateur qui est intervenu, et qui a blackboulé en quelque sorte les organisateurs qui fonctionnaient si bien. Qu'est-ce qui se passe? Ils trouvent des solutions dont ils sont plus ou moins satisfaits. Mais là, à 99%, dans 99% des cas, ils trouvent des solutions. Et la plupart du temps, ils trouvent des solutions dans des temps extrêmement rapides. Parce que la situation se passe dans l'urgence. Dans l'urgence de l'interaction d'un gamin qui fait l'imbécile ou qui répond ou qui agit pas comme attendu. Bon. Et quand ensuite on essaye d'approfondir avec eux le pourquoi de leur choix, donc on leur demande de se justifier en quelque sorte, de reconstruire un argumentaire, on se rend compte qu'ils ont pris leur décision en fonction de la prescription qu'ils ont toujours en tête, même s'ils la connaissent de façon un peu vague. Ils ont quand même toujours en tête qu'est-ce qu'on leur demande de faire. Deuxièmement, ils prennent leurs décisions en fonction d'un certain nombre de règles du métier, de conventions. Quand on est prof, il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas. Troisièmement, en fonction aussi de l'organisation locale du travail. Je sais que si je fais ça, je serai soutenue par mes collègues ou par ma hiérarchie. Ou au contraire, je ne le serai pas. Je pourrai trouver des ressources après. Etc. Et aussi, bien sûr, en fonction de la situation, de ses contraintes et de ses ressources. Et là, on peut dire qu'il y a la mobilisation, souvent inventive, à la fois des désorganisateurs et des organisateurs, pour construire des prises sur l'environnement. Face au sentiment qu'expriment souvent les enseignants d'une relative impuissance, de quelque chose qui échappe, d'une situation qui échappe, ils reconstruisent des prises sur l'environnement. Alors un petit exemple peut-être pour illustrer ça. J'ai le souvenir d'une enseignante de français en collège qui arrive dans son cours de français en troisième, dans une classe de ZEP, le lendemain des élections présidentielles, du premier tour des élections présidentielles en 2002. Et elle devait faire un cours sur l'argumentation et elle avait prévu de travailler à partir de, maintenant le texte littéraire m'échappe, mais c'était à partir d'un texte littéraire. Elle n'a pas plutôt fait deux pas dans la classe que les élèves lui disent « Alors madame Le Pen, il est élu ?» Elle était bien sûr un peu saisie, elle a compris qu'elle ne pourrait pas faire cours comme d'habitude, les élèves étaient très agités, et puis elle a compris qu'ils n'avaient rien compris, que c'était le premier tour, que bon ça. Et elle explique dans le récit qu'elle fait de cette séance comment elle a retourné la situation en se saisissant de cet inattendu, ce qui est assez banal chez les enseignants qui font très très souvent ça, et en faisant argumenter les élèves sur la situation électorale, sur ce qui allait se passer, sur les arguments des uns et des autres partis politiques, renvoyant à son collègue d'histoire quand elle se sentait un peu en doute sur ce qu'il fallait dire. Et après, quand elle est sortie de son cours, elle s'est dit, finalement, j'ai quand même réussi à faire l'argumentation. C'est pour ça que je veux dire, même dans ces décisions qui semblent prises dans l'improvisation, ce n'est pas pris dans l'indétermination. Il y a des points de repère. Là, elle n'a jamais oublié que son objectif, c'était aussi de faire du français, de faire de l'argumentation. Elle n'a pas oublié l'organisation locale qui sait qu'elle peut compter sur la solidarité de ses collègues, notamment d'histoire, pour compléter les connaissances. Et elle connaît le public élève qu'elle a, et elle sait qu'elle a intérêt, pour pouvoir travailler, à prendre en compte leur état émotif, si je puis dire. Donc les désorganisateurs de l'activité concernent plusieurs dimensions du travail et de l'activité. Les désorganisateurs concernent le prescrit et le réel. Et ils concernent aussi le travail de traduction qui se passe pour passer de l'un à l'autre. Les désorganisateurs touchent le sens même du métier, peuvent entraver les gestes professionnels. Et les prises que se construisent les enseignants face à ces désorganisateurs peuvent être très différentes. Et dépendent beaucoup des conditions locales de travail aussi. Dernier point, je voudrais essayer d'évoquer les effets délétères des désorganisateurs. Rapidement, parce que c'est pas là-dessus que je voulais le plus insister, mais tout de même. Ce qui domine dans l'expérience professionnelle des enseignants, et je dis bien de tous les enseignants, c'est un sentiment de perte de pouvoir d'agir. Et ce sentiment de perte de pouvoir d'agir est lié au sentiment d'échec de l'action. Les désorganisateurs n'y sont pas pour rien. Autre sentiment et expérience, c'est pas seulement du sentiment subjectif, c'est l'expérience aussi vécue par les enseignants, c'est une auto-efficacité et une efficacité collective qui est mise en doute. L'auto-efficacité, la capacité à agir en fonction de ses compétences, à la fois au plan individuel et au plan collectif. Autre effet délétère, et là ça a des effets plus graves sur la santé des personnes, c'est quand cela contraint à suspendre la pensée. À suspendre la pensée, c'est-à-dire à ne plus pouvoir effectuer les opérations cognitives qui permettent l'opérationnalisation de ce qu'on veut faire. Perte de repères pour savoir comment agir. Comment faire un diagnostic pertinent de la situation? Et cela se traduit notamment lors des incidents critiques que racontent les enseignants, où il y a de véritables effets de sidération. Ce sentiment d'être figé, d'avoir la pensée figée, de ne plus pouvoir justement penser la situation. Deux autres effets délétères que je pointerai. Le premier, c'est concernant les collectifs de travail et les communautés professionnelles. Les désorganisateurs de l'activité mettent à mal les collectifs de travail. Parce qu'il devient de plus en plus compliqué de parler du travail, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Et des communautés professionnelles, parce que c'est des organisateurs, mettent à l'épreuve pas seulement les individus, mais mettent à l'épreuve le métier. Et un métier qui a une histoire, mais qui face aux sollicitations que sont aussi ces désorganisateurs, le métier est sommé de bouger, de se transformer aussi. Donc les désorganisateurs sont un stimulant, mais pas toujours positif, qui n'est pas toujours en tous les cas vécu de façon positive. Cela se voit par certaines attitudes défensives que l'on trouve dans le métier, qui sont des stratégies permettant de limiter les effets des désorganisateurs, de se protéger en quelque sorte. Alors ça va jusqu'à des organisations clandestines du travail qu'on peut voir dans certains établissements qui redoublent l'organisation officielle du travail pour pouvoir travailler en mettant un peu à distance des organisateurs. On a un exemple comme ça sur les PPCP qui était assez amusant. Ça ne marche pas longtemps en fait comme ça. Dernier point des effets des organisateurs, c'est le fait que pour les enseignants, à la fois au plan individuel et collectif, et au niveau du métier aussi, il y a des ressources qui sont de moins en moins adéquates. Les ressources pour travailler, les ressources traditionnelles, historiques, héritées pour travailler, semblent moins pertinentes et moins adéquates à cette situation, à la situation actuelle. Donc l'empêchement à agir entraîne aussi un échec de la construction de concepts pragmatiques qui sont les organisateurs de l'activité. Apprendre par l'action et par la réflexion devient problématique quand on est dans une situation où on cesse de penser, où les collectifs sont mis à mal. Au total, on peut dire que il y a une déconnexion de plus en plus grande entre les normes de travail prescrites et l'environnement de travail. Et ce n'est pas propre à l'enseignement d'ailleurs. Une déconnexion de plus en plus grande entre les normes prescrites et les environnements de travail. Et cela se traduit par une crise de confiance des enseignants, une crise de confiance à l'égard de leur institution, mais aussi une crise de confiance en eux-mêmes, collectivement et individuellement. Et enfin, trois points pour conclure, et j'arriverai
au moins 10. Très bien.
Premier point, les désorganisateurs de l'activité correspondent à des niveaux d'analyse différents de l'activité. Pour les saisir, il faut les saisir à différents niveaux de l'activité professionnelle au sens large, et aussi de l'activité au sens de l'agir et du penser en situation professionnelle coordonnée avec d'autres. En fait, ces désorganisateurs portent sur toutes les dimensions qu'évoquent les tenants, les chercheurs qui travaillent sur les organisateurs de l'activité. Ils portent sur le couple schème-situation. Ils portent sur les compétences et les conceptions mobilisées, sur le comment ça marche. Ils portent sur les interactions, ils portent sur les objets d'enseignement, ils portent sur les tâches et l'activité située. Et notamment, ils portent sur la dialectique tâche-problème. Ils portent aussi sur l'imaginaire du métier, sur le sens du travail. Il y a par exemple quelque chose qui est beaucoup perturbé, à mon avis, c'est l'éthique professionnelle. De façon traditionnelle, l'éthique professionnelle dans le métier enseignant, c'est une éthique qui est liée au sentiment de responsabilité et à un sentiment de responsabilité individuelle. Or, de plus en plus, ce qui est mis en place à travers des dispositifs transversaux, c'est une responsabilité collective. Donc cela transforme pas mal cette notion. Donc cela transforme le rapport de l'individu à son travail. Deuxième point de la conclusion, je fais l'hypothèse que saisir les désorganisateurs de l'activité permet de comprendre le travail de construction également des organisateurs. En effet, il y a toujours un travail et une volonté d'eux, un mobile pour stabiliser les procédures, stabiliser les règles. C'est un travail de Pénélope, mais que les enseignants font au quotidien, en prenant en compte différentes dimensions qui interfèrent dans l'activité et qui ne relèvent pas toutes, je le redis, de la classe, ni même des savoirs. ce qui fait une différence par rapport aux travaux habituels sur les organisateurs de l'activité qui se situent essentiellement dans la classe. Dernier point de la conclusion. Intégrer les désorganisateurs de l'activité dans l'analyse du travail peut aider à rendre compte de la plasticité de l'activité située. Plasticité, justement, pour faire face aux perturbations de l'activité professionnelle. Donc, je plaiderai pour une conjonction, et non pas une disjonction, des désorganisateurs et des organisateurs, parce qu'à mon avis, l'activité se nourrit des deux.